RCF.
Bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture, ou même parlons des deux. Je vous rappelle que c'est une émission mensuelle qui nous permet de parler de l'un ou l'autre de ces secteurs d'activité qui concernent bien évidemment le département de la Marne, mais également les départements voisins. Et avec moi aujourd'hui, un invité tout particulier, un nouvel invité à la radio RCF. Il s'appelle Dominique Pierre. Bonjour Dominique Pierre.
Bonjour Monsieur Cartel.
Eh bien, avec Dominique Pierre, aujourd'hui, nous allons parler des coopératives viticoles. Coopératives viticoles qui, je le rappelle, sont dans la zone d'appellation Champagne qui représente 34 000 hectares. 319 villages sont concernés par cette appellation. 300 millions de bouteilles vendues à peu près chaque année. Et puis plus d'un milliard de bouteilles en stock dans les caves de cette Champagne qui est vraiment un vignoble extraordinaire. Et d'après la petite enquête que j'ai conduite, eh bien, il y a, Monsieur Pierre, 132 coopératives viticoles. Et ce chiffre m'a paru énorme. Énorme parce que ça constitue un véritable phénomène. Alors, d'où vient ce phénomène de la coopération viticole ?
Alors, il est énorme, mais il faut revenir sur l'histoire de la coopération. Bon, on va passer rapidement, 1901, les premiers pionniers à Chamery qui se sont constitués pour faire du champagne, mais c'était un phénomène rarissime. Ensuite, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les coopératives ont été des outils de pressurage exclusivement. N'oublions pas que pour créer leur pressoir, les vignerons adhérents à des coopératives avaient la pioche, la pelle, la bétonnière, et c'est eux qui ont créé...
Un peu comme les fruitières du Jura, quoi.
Tout à fait.
Ils ont construit les coopératives eux-mêmes.
Ils ont construit les coopératives.
Alors d'abord pour faire du pressurage.
Du pressurage, c'était une alternative au négoce. N'oublions pas qu'à certains moments, le négoce avait été un peu le censeur et avait un diktat très fort. Bonne année, on prenait les raisins, je dis pas n'importe lesquels, mais on prenait les raisins. Les mauvaises années, on les laissait sur le quai des pressoirs. Il fallait stocker dans des cuves, d'où la nécessité de ces coopératives.
Donc ces coopératives prenaient le raisin de leur coopérateur, le transformaient en jus et le mettaient dans des cuves et vinifiaient.
Et vinifier, la première vinification, et on remettait en marché quand il y avait nécessité.
Et qui achetait alors le jus ?
Après, les négociants, quand ils en avaient besoin, l'année suivante, ou parce qu'ils avaient bien vendu et ils étaient à court de matières premières.
D'accord, mais pourquoi est-ce que les négociants n'achetaient pas le raisin directement ? Parce que la valeur ajoutée n'était pas très bonne pour le producteur ?
Pas de valeur ajoutée, et d'autre part, pour le négoce... Pourquoi se charger de stocks dont ils n'avaient pas besoin? Surtout, pourquoi créer de la trésorerie, mettre de la trésorerie, au marché, alors qu'ils n'en avaient pas besoin? N'oublions pas que la rareté du champagne, c'est aussi le paiement immédiat de la matière première. Dès le 5 décembre qui suit la vendange, une partie des raisins sont payés à la propriété, alors que dans toutes les autres régions, c'est bien après, c'est pratiquement au moment de la mise en marché.
Oui, donc il y a bien ici un phénomène économique qui s'explique et même de relations commerciales entre les producteurs et le négoce qui a fait que les producteurs ont compris qu'ils avaient plus de pouvoir, si je puis dire, face aux négociants en vendant plutôt du vin qu'en vendant du raisin.
Tout à fait.
Alors donc ça c'est le début du phénomène. À l'époque, le vignoble, il représentait quelle surface
C'était à peine 10 000 hectares.
Avant la guerre.
On est avant la guerre, effectivement.
Et il faut rappeler qu'on a eu une terrible maladie qui a détruit l'ensemble du vignoble. C'était en quelle année,
comme
le phylloxéra?
Tous les vignobles français ont été abîmés par le phylloxéra. C'était dans les années 1900, entre 1900 et 1911, selon l'étalement de la maladie, hélas. Et le paradoxe, c'est que ce sont des pieds américains qui sont venus au secours du vignoble champenois pour la reconstitution de ce vignoble champenois.
C'est-à-dire les porte-greffes étaient résistants au phylloxéra et ça a permis de regreffer nos principaux cépages, Pinot, Chardonnay et Pinot Meunier.
Tout à fait.
Donc ça, c'est la période, on va dire, avant la guerre.
Oui.
À une époque où le vignoble n'avait pas la prospérité qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. Alors, y a-t-il eu un phénomène ou une explication qui a fait que certaines coopératives ont commencé à faire du champagne ?
Alors, oui. Il y a deux bonhommes, Nolval d'un côté, Macquart de l'autre, qui était directeur et président du syndicat général des vignerons, qui ont voulu, à l'appui du contrat interprofessionnel qui s'est mis en place dans les années 1953 plus précisément, qui ont voulu à l'appui avoir un contrepoids au phénomène commercial du négoce en disant aux coopératives, gérez votre produit jusqu'au bout, amenez la meilleure plus-value aux vignerons pour avoir effectivement un moyen de discussion fort vis-à-vis du négoce.
Pour tout dire, on passait d'une volonté syndicale de transformer les producteurs de raisins, voire de jus au travers des coopératives, en producteurs de vin.
Tout à fait.
De façon que ne pas laisser la totalité du marché aux négociants.
On est bien d'accord.
Hein, qui étaient pratiquement les seuls à intervenir en production de champagne avant que les coopératives ne s'en mêlent.
En fait, il y avait deux camps. Il y avait le camp du négoce qui faisait, à partir d'une matière première déjà transformée, la mise en marché, et en disant aux coopératives et aux vignerons, débrouillez-vous, l'amont, ça ne m'intéresse plus. N'oubliez pas que dans tous les villages, il y avait pratiquement des pressoirs de négociants, quelles que soient des très grandes maisons, je ne vais pas les citer là, bien évidemment, mais le négoce a abandonné cette partie-là en disant, allez, on vous laisse ça, nous, on se consacre à ce qu'on considère être notre métier, la mise en marché.
Et le développement commercial, qui d'ailleurs a plutôt bien réussi, puisqu'on est passé de moins de 10 000 hectares à plus de 30 000 hectares aujourd'hui.
34 000.
34 000 hectares aujourd'hui, et c'est véritablement considérable. Alors, nous sommes, si on est dans cette phase d'historique et d'explication de ce développement de la coopération, on est juste après la guerre, arrivent les premiers accords interprofessionnels, la création de l'interprofession. On peut rappeler en substance...
L'interprofession, c'est 1941, et le côté un peu curieux et anecdotique, c'est le dernier texte qui reste de l'épopée Vichy, puisque Vichy voulait du corporatisme, les vignerons champenois et les négociants champenois voulaient effectivement cette union, dont le phénomène CVC ne les a pas gênés, et le CVC a perduré après la guerre, après une enquête faite par le ministère de l'Agriculture, qui a confirmé l'utilité de l'interprofession.
Alors, si ça existe encore, c'est que ça a encore son utilité, je l'imagine. Alors, en quoi, en substance, consiste cet accord interprofessionnel ?
L'accord interprofessionnel était simple. D'un côté, il y avait des négociants qui faisaient une déclaration d'intention d'achat. De l'autre côté, il y avait des vignerons qui faisaient une intention de vente de raisins. Et l'interprofession mettait l'un en face de l'autre.
Rapprochait l'offre et la demande, en fait.
En fonction de ce que l'offre était par rapport à la demande. Donc, il y avait un prorata qui était établi. Et n'achetait pas, le négociant à l'époque n'achetait pas là où il voulait, comme il voulait. C'était à partir de ses habitudes précédentes. Donc c'était très réglementé.
Donc, en fait, à la différence d'un marché libre qui fait que l'offre et la demande ajustent le prix instantanément au moment où se rencontrent les parties, là, il y a une anticipation d'une volonté de vendre une certaine quantité de raisins au négoce, et en face, pour le négoce, une volonté d'acheter une certaine quantité.
Tout à fait. D'ailleurs, bon, j'y ai participé à l'époque, même si je n'ai pas encore un âge trop canonique. Simplement, il y avait une grande réunion à la mairie d'Épernay, où le négoce et vignerons se rencontraient avant les vendanges, et ils décidaient du prix interprofessionnel auquel tout le monde devait se soumettre. Et le raisin n'était pas payé directement du négociant vers le vigneron. C'était l'interprofession qui était l'interface, qui assurait le règlement directement au vignoble.
C'est le CIVC qui payait le producteur de raisin.
Complètement.
Et de ce fait, garantissait le règlement de la quantité livrée.
Tout à fait.
Et donc, alors c'est vrai que Dominique Pierre, je ne vous ai pas présenté de façon plus complète, mais vous avez passé toute votre carrière professionnelle, maintenant que vous êtes retraité, au service des viticulteurs et dans le vignoble, notamment au CIVC, justement au cœur de l'interprofession.
Où j'ai assuré le paiement des raisins, entre autres.
Oh ben, alors dans ce cas, quelle garantie il y avait en plus, parce que l'honnête homme que vous êtes, en plus de la structure, garantissait un bon règlement à l'ensemble des producteurs de raisins. Mais en plus, vous avez terminé votre carrière pendant une quinzaine d'années, je crois.
20 ans,
à la tête de la plus grande coopérative viticole de la Champagne, qui est Nicolas Feuillat. Donc, c'est avec une connaissance pertinente que vous nous expliquez tout ça aujourd'hui. Alors, on en était à cet accord interprofessionnel. Alors, l'accord interprofessionnel, finalement, il rapprochait l'offre et la demande par anticipation de ce que le marché était capable d'écouler et garantissait même un prix convenu à l'avance aux négociations du mois de juillet avec la bénédiction du préfet, un prix qui était convenu et qui satisfaisait forcément tout le monde, puisqu'en plus il était garanti d'être réglé ce prix. Mais tout ça s'est terminé un jour, il me semble.
Ah, complètement. Alors, je me souviens encore
pourquoi
ça marchait trop bien. Les négociants trouvaient que c'était pas normal qu'ils n'aient pas connaissance des vignerons qui leur apportaient des raisins. Les vignerons voulaient avoir le contact direct, peut-être pour marchander, entre guillemets, la matière première. Et je me souviens, dans les années 80, d'une manifestation qui a eu lieu à la salle des fêtes d'Épernay, menée à l'époque comme prestataire par William Lémergie, reporter très connu.
Ah oui, le célèbre journaliste, oui.
Avec les deux présidents qui étaient Marc Brugnon d'un côté, Jean-Michel Dusselier de l'autre, qui ont essayé de débattre pour... Ils voulaient, eux, de cet accord interprofessionnel jusqu'au bout. Et ils n'ont pas réussi. Les mandants n'ont pas accepté ce contrat en disant « Liberté chérie, on se débrouille tout seul ». Donc les bons de l'interprofession n'ont plus existé. Et le négoce a été chercher lui-même ses raisins ou le vigneron a été chercher lui-même son négociant.
Et en même temps, peut-être que c'était trop ficelé, quoi. Quelque part, chaque... intervenant perdait sa liberté de négociation.
On avait une liberté de négociation, on avait une garantie d'écoulement d'une manière ou d'une autre, ou d'approvisionnement d'une manière ou d'une autre, ce qui était le plus important.
Mais est-ce que Bruxelles n'a pas mis son nez dans l'histoire en interdisant ce type d'accord qui finalement était quelque chose d'exceptionnel, je veux dire exception dans un marché libéral?
Alors effectivement, dans un marché libéral, il n'est pas possible de créer un prix d'entente entre les parties, entre le créateur de la matière et le metteur en marché. Donc c'était anti-Bruxelles.
Oui.
Mais je pense qu'on pouvait encore se défendre à l'époque dans le cadre des marchés agricoles qui sont quand même très spécifiques. Mais je crois que la volonté des parties n'était plus celle-là. La volonté des parties était de dire « laissez-nous faire, on est des grands garçons et on va aller tout seul ».
Donc à ce stade, Dominique Pierre, on voit que les coopératives sont nées au début du siècle dernier, au début des années 1900, qu'elles ont répondu à un besoin des viticulteurs d'accroître leur poids économique et leur poids commercial vis-à-vis du négoce. Elles ont permis un développement assez considérable, notamment à partir de la dernière guerre, des accords interprofessionnels. Et après une petite pause, on va voir un peu ce que sont devenues ces coopératives au fil du temps et comment aujourd'hui elles occupent une place dans le marché et dans l'économie viticole champenoise.
Alors je crois qu'on vient de vivre une époque qui est en train de s'achever. Peut-être est là, j'en sais rien. Le marché français arrive à saturation. Or, pour arriver à saturation, les vignerons ont transformé leurs matières pour les mettre eux-mêmes directement en vente vis-à-vis des clients finaux. Le marché français étant achevé, on passe à l'export maintenant. Or, l'export n'est pas à la portée de tout le monde. Quand on va exporter au Luxembourg ou en Belgique, c'est facile. Quand on va aux USA ou au Japon, c'est beaucoup plus difficile.
Donc, on va voir ça dans la deuxième partie de notre émission.
L'application RCF, c'est tout RCF, où vous voulez, quand vous voulez. Avec votre smartphone, écoutez le direct. Découvrez les programmes à venir en naviguant simplement dans les différents menus. Et grâce au podcast, réécoutez vos émissions préférées quand vous le souhaitez. Ne ratez pas un rendez-vous. Téléchargez l'application RCF. Elle est disponible sur App Store et Google Play.
RCF.
Alors avec nous dans cette émission Parlons agriculture ou viticulture, Dominique Pierre, qui a été employé par le comité interprofessionnel des vins de Champagne pendant pas mal d'années et ensuite à la tête de la plus grosse importante coopérative viticole de la Champagne qui est Nicolas Feuillatte, 20 ans d'un côté, 20 ans de l'autre. Et Dominique Pierre, avec lui, nous évoquons l'histoire des coopératives agricoles et leur développement économique. Alors nous sommes arrivés dans la première partie de l'émission à observer que les coopératives ont nombre important puisqu'il y en a 132 en Champagne. C'est pratiquement une coopérative pour deux villages et demi. Pratiquement, c'est vrai que dans chacune des villages importants de la Champagne, il y a une coopérative. Au départ, elles transformaient le raisin en jus qu'elles stockaient et ce jus était vendu au négoce. Puis progressivement, pour équilibrer finalement les relations dans le vignoble, les coopérateurs ont demandé à la coopérative de faire du champagne, je crois.
Alors effectivement, il y a deux cas de figure. Le vigneron considérant que investir chez lui coûtait beaucoup trop cher par rapport au retour sur investissement. Pour faire son champagne, confier le travail à la coopérative. Union de coopérative, peu importe. L'autre intérêt de confier à une coopérative, surtout une union de coopérative, c'est de pouvoir avoir un assemblage auquel il ne pouvait pas prétendre, parce qu'un vigneron est souvent monocru ou pas loin d'être
monocru.
Oui,
alors il faut rappeler deux choses, si je puis me permettre. C'est que d'une part, en Champagne, la caractéristique de ce vin, c'est un vin d'assemblage. Hein, on fait dans une bouteille de champagne, on mélange des raisins d'années différentes, mais on mélange également des raisins de cépages différents et issus de terroirs différents. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce produit qu'est le champagne.
On est d'accord. Et cette particularité garantit une qualité permanente, constante. Donc, le client va trouver un champagne de 2013 à un certain goût. Il retrouvera en 2040 le même champagne avec un même goût.
C'est aussi... il est bien vinifié par un bon œnologue.
À mon avis, il n'y a plus beaucoup de mauvais œnologues. Tout ça, c'est du passé.
Il faut quand même des quantités relativement importantes pour réussir cela.
On est d'accord.
Et l'autre aspect des choses que je me permets de rappeler, Monsieur Pierre, c'est que si ça a été possible au niveau d'une coopérative, c'est parce que la coopérative a un statut juridique particulier qui fait que son activité se situe dans le prolongement direct de l'activité du producteur.
On est d'accord.
Sinon, la coopérative aurait été obligée d'être considérée comme négociante.
Elle est fiscalisée dès l'apport des raisins, ce qui n'était pas le but non plus de la manœuvre.
Et parce que c'est une coopérative, une fois que la bouteille de champagne est élaborée dans ses locaux, elle peut rendre la bouteille de champagne au producteur d'origine qui va y mettre son étiquette.
Il va la restituer... équité de volume, pas forcément équité de qualité initiale, puisque bien sûr l'assemblage est passé entre les deux.
Hein. Mais ça a quand même permis aux vignerons de base qui n'avaient que des vignes et pas de bâtiment pour faire son jus et faire sa vinification, d'avoir du champagne issu juridiquement des vignes qu'ils cultivaient.
On est d'accord.
Et avoir son étiquette sur une bouteille.
On arrive effectivement à ce stade actuel et l'avenir de la coopération. On sent que le marché français est en pleine stabilisation. Alors, pour des tas de raisons, ou concurrentielles, ou législatives par rapport à des lois qui interdisent certaines promotions. Or, le débouché absolu, c'est l'export et de plus en plus le grand export. Le Japon, les USA, l'Amérique latine, etc. Et pour pouvoir aborder ce genre de marché, ben, il faut des moyens. Alors, je dis pas des moyens financiers, quoique, il faut aussi des moyens en hommes, en organisation et aussi en volume.
Alors, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que finalement, le développement du champagne, quantitativement et en valeur, 5 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires, il est essentiellement à l'exportation aujourd'hui?
Il est de plus en plus à l'exportation et au grand export, effectivement, tout à
c'est
fait.
C'est quoi? C'est une bouteille sur deux qui est exportée?
C'est pas encore une bouteille sur deux, mais on n'en est pas loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché français est en pleine stagnation actuellement. Je pense qu'il y a aussi un problème qu'on a du mal à évoquer en Champagne, mais il y a une concurrence et un changement d'attitude du consommateur vis-à-vis du champagne qui n'est pas neutre. Il y a d'autres propositions que sont les Prosecco, les Cava, les Sparkling, et c'est de bon ton aujourd'hui de dire à des copains « Tiens, dis donc, j'ai trouvé un truc qui est vachement bien fait. C'est pas du champagne, mais c'est rudement bien fait. »
Alors, 300 millions de bouteilles vendues à peu près chaque année. En gros, 150 millions de bouteilles exportées, 150 millions consommées sur le marché français. Et en faisant ma petite enquête dans laquelle j'ai trouvé qu'il y avait encore 132 coopératives, j'ai vu que 25 millions de bouteilles correspondaient à des bouteilles issues des coopératives pour lesquelles les coopérateurs avaient apporté leur raisin et récupéré une bouteille avec une étiquette à leur nom. 25 millions de bouteilles, c'est quand même relativement important.
Mais c'est en baisse. C'est en baisse parce que, effectivement, pour deux raisons. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, un marché qui se sature pour celui qui est à proximité du vigneron récoltant. De l'autre côté, il faut aller très loin. Et pour aller très loin, ben effectivement, il faut que cette masse puisse pouvoir peser sur les frais de structure.
Alors, vous êtes en train de m'attirer sur cette question qui est celle que la coopérative elle-même, finalement, si elle a des coopérateurs qui n'arrivent pas à vendre autant de bouteilles de champagne qu'ils n'apportent de raisins, j'imagine que la coopérative a créé sa propre marque.
Les coopératives, c'est l'esprit que voulaient effectivement également les initiateurs de la coopération. Je parlais tout à l'heure de Nolval et de Macquart. C'était de mettre en marché jusqu'au stade final, puisque la plus-value maximum, elle se retrouve à celui qui va effectivement jusqu'au bout de la chaîne de transformation et de mise en vente.
Alors d'où la naissance des unions coopératives et des coopératives régionales.
Alors première coopérative régionale qui est née avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la Cogevi à Haï.
Ça veut dire quoi Cogevi?
Coopérative générale des vignobles.
D'accord. Et bon. Celle-là, elle est Haï, Grand Cru.
Haï, Grand Cru.
C'est la plus ancienne.
Ensuite, il y a eu trois autres structures qui ont été dans la foulée. Une coopérative, deux coopératives pardon, régionales, que sont d'un côté la Covama, Champagne-Panier à Château-Thierry, et de l'autre côté Castelnau, Cervécé à Reims.
Et puis, alors Castelnau qui s'appelait Jacquard, je crois.
Qui s'appelait avant, Jacquard. Hein. La marque Jacquard a été vendue pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne m'attarderai pas à un groupement de coopératives, tout simplement. Bon. Et puis il y a deux unions de coopératives. Là, ce ne sont plus des coopératives régionales, ce ne sont plus des vignerons qui apportent leurs raisins, mais bien des coopératives locales qui vont abonder l'approvisionnement d'une union. Ces deux unions sont l'UAPVC, maintenant Union Auboise, et Champagne de Vaud dans l'Aube, et puis le centre vinicole Champagne-Nicolas Feuillatte à Chouilly.
Alors celle-là, vous la connaissez bien, monsieur Pierre. Nicolas Feuillatte, c'est combien de coopératives associées ?
Beaucoup. Beaucoup. On était, à l'époque, quand je l'ai quitté il y a 5 ans, 80 coopératives associées, plus une coopérative de particuliers, donc de vignerons lambda, qui ont voulu bénéficier des services du centre vinicole sans passer par la coopérative locale. Donc cette union des coopératives particuliers qui venait contribuer.
Donc au total, 85 ?
85 coopératives.
85 coopératives. 85 coopératives qui récupèrent du jus.
Qui récupèrent du
puisque
jus.
Puisque toutes les coopératives de base sont des coopératives de pressurage.
Oui. Et donc, voire de transformation partielle.
Donc chez Nicolas Feuillatte, pas de pressoir.
Non.
Des camions-citernes qui apportent le jus au moment de la vendange.
Alors ça, la volonté, c'était de dire que la qualité d'un raisin est optimale quand il est traité au plus proche de la vigne. Donc ce n'était pas à nous de faire le pressurage, c'était bien aux coopératives locales qui ensuite envoyaient les jus au centre vinicole.
Alors qui garantissent, au travers de la charte de qualité qu'il y a dans chacun des pressoirs de coopératives, une qualité des jus. Et il y a une chaîne de transport des jus qui arrive chez Nicolas Feuillatte en quantité phénoménale au moment de la vendange.
En grosse quantité, oui.
Alors, donc, j'imagine que les jus arrivent chez Nicolas Feuillatte. C'est l'exemple de la coopérative, d'Union coopérative régionale, hein, n'est-ce pas ? Et que ces jus-là retournent en bouteille dans les coopératives de base ?
Très partiellement en bouteille, l'objectif majeur étant effectivement la mise en marché finale sous la marque Feuillatte, voire quelques marques secondaires, des produits qui sont importés par les vignerons. Mais une partie, en gros, ça doit être de l'ordre de 40% aujourd'hui, repart vers les coopératives locales et leurs adhérents.
Mais à l'origine, c'était quasiment 100%?
À l'origine, c'était 100% parce qu'on était resté dans l'esprit de mettons ensemble nos moyens, faisons baisser les charges de structure, bénéficiant d'une qualité optimale dans une structure qui est une structure faite pour ça, qualitativement. Mais la commercialisation est apparue dans un deuxième temps.
Alors, au départ, donc, tout repartait dans les coopératives de base qui elles-mêmes renvoyaient les bouteilles chez les producteurs capables de vendre à leurs amis sur un marché local ou sur le marché français. Et progressivement, donc, pour pouvoir aller sur les marchés de l'export, les coopératives ont créé leur propre marque. C'était le cas de Nicolas Feuillatte. Nicolas Feuillatte, la marque, elle vient d'où ?
Elle vient de M. Feuillatte. Alors, M. Feuillatte, je l'ai connu, il a existé.
Moi aussi, d'ailleurs.
Même s'il est décédé, malheureusement.
J'ai eu l'occasion de lui serrer la main à plusieurs occasions. Oui.
M. Feuillatte, c'était un aventurier qui a claqué la porte de familiale à un moment donné de sa vie pour aller vivre aux États-Unis. Et en partie également en Amérique latine, au moment où les caféiers du Brésil ont gelé. Le père Feuillatte, le père de Nicolas qui était resté en France et qui avait besoin de café pour eux, parce que c'était des gens qui transformaient du café à un moment donné, a appelé son fils qui a, au travers de ce marché, fait fortune. Faisant fortune, il a acheté un tout petit vignoble dans la montagne de Reims. Et puis, ben, il s'est dit, bon, je veux bien, mais c'est pas mon boulot, c'était pas son truc. Il a vu les gens de chez Feuillatte, à l'époque, M. Macquart, président, pour pouvoir avoir un accord de transformation. Et il a cédé sa marque, purement et simplement.
Et ça représentait une marque qui vendait combien de bouteilles ?
100 000 bouteilles.
100 000 bouteilles.
L'objectif était de 100 000 bouteilles. Et comme on était dans des années qui ont été difficiles pour la Champagne, les années 70, à un moment donné, il a été grand seigneur en disant, écoutez, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je vous donne, pas de royalties, la marque ne m'appartient plus, je ne demande rien du tout en dédommagement, faites-en ce que vous voulez.
Alors on est parti de ces 100 000 bouteilles dans la coopérative, l'Union coopérative qui est devenue Nicolas Feuillatte.
Parti de 100 000 bouteilles, le centre vinicole donc sous sa marque Feuillatte, met en marché 10 millions de bouteilles, passées même maintenant, et quelques marques secondaires qui doivent représenter entre 1 et 2 millions de bouteilles. Donc c'est 12 millions de bouteilles sur les 25 millions de bouteilles de la coopération.
Et dans des locaux à Chouilly qui en stockent à peu près combien ?
Oh, on est plus de 100 millions de bouteilles en stock à Chouilly.
plus de 100 millions de bouteilles, mais c'est considérable. C'est pratiquement un tiers de ce qui est vendu chaque année, qui sont dans les caves, dans le sous-sol à Plumecoq, là-haut,
au-dessus de Chouilly.
Dans ces bâtiments au-dessus de Chouilly. Et donc, aujourd'hui, et ça, ce schéma-là n'a pas eu le même succès dans les autres coopératives régionales, mais dans les coopératives régionales, la marque Deveau a décollé, la marque Panier a décollé, la marque Castelnau a décollé, et la marque Jacquard, qui appartenait à la CRVC, la coopérative de Reims, eh bien, aujourd'hui appartient collectivement à la COGEVI, à la CRVC et, je crois,
à l'Union Boise.
À la Covama et à l'Union Boise.
Tout à fait.
Et donc, tout ça, ça représente aujourd'hui combien de bouteilles ont vendu sous ces marques-là?
Globalement, l'ensemble des marques de la coopération, c'est entre 20 et 25 millions de bouteilles, à peu près.
Alors 25 millions de bouteilles qui s'ajoutent aux 25 millions de bouteilles vendues par les vignerons de base, ça fait 50.
Ça fait 50.
Ça fait tout juste le marché anglais.
Ça fait le marché anglais, effectivement, avant Brexit.
Tout ça nous donne l'occasion de se redonner un rendez-vous, Monsieur Pierre. Parce que j'aimerais bien qu'on parle, parce que c'est avec passion quand même qu'on parle de ces sujets-là, et bien qu'on puisse en parler et que nos auditeurs profitent de nos échanges autour de cette économie de la Champagne, qui est quand même une économie assez extraordinaire. Eh bien, on vous donne rendez-vous une autre fois. On dit au revoir à tous les auditeurs et à bientôt sur RCF.